بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه لا يوم الدين وبعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب زدنا علما يا كريم رب زدنا علما يا كريم رب زدنا علما يا كريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي مشايخ خير توت لي لونج revient Allah Azza wa Jal qui nous donne la possibilité d'être réunis ce soir pour étudier une partie de la vie de notre prophète Muhammad Mustafa sallallahu alayhi wa sallam. Le dernier cours, on avait vu les difficultés que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait connues dans sa personne, les souffrances qu'il avait connues personnellement dans les premières années de la prêche à Mecca, et comment le prophète alayhi salatu wa sallam a fait preuve de patience, de persévérance. Il se tournait toujours vers Allah Azza wa Jal. Il donnait un sens à ses difficultés, à ses épreuves. Il savait que ça venait d'Allah et qu'il y a un bien de ses difficultés et qu'Allah éprouve ses serviteurs de cette façon et que celui qui est patient et place sa confiance en Allah obtiendra l'aide d'Allah Azza wa Jal et la délivrance. Bien. Ce que nous allons voir ce soir concerne maintenant les premiers musulmans. Les souffrances, les difficultés qu'ont connues les premiers sahaba, ridwanullahi ta'ala alayhim ajma'in. Vous vous rappelez, les fois d'avant, on citait les personnes qui causaient du tort aux croyants. On parlait d'Abu Lahab, on parlait d'Abu Jahal et d'autres. Donc là, on revient à celui qui était le plus virulent, c'est-à-dire Abu Jahal. Je lis ce qu'on Barak Fawri, rahimahullah, écrit. Toutes les fois qu'Abu Jahal entendait parler de la conversion d'un homme d'ascendance noble, je résume, hein, je lis pas tout, c'est long, il le réprimandait, il le menaçait de ruiner son négoce, il aurait pu utiliser des termes plus simples, de ruiner son commerce et de flétrir sa réputation. Donc s'il aurait pu simplifier la traduction et de porter atteinte à sa réputation. Donc, quand il s'agissait de quelqu'un d'une tribu arabe reconnue, noble, comme c'était important pour eux à l'époque, la noblesse, quand il s'agissait d'un noble, Abu Jahal allait voir directement la personne qui venait de se convertir à l'islam et le menaçait. Il le menaçait de sa personne, de sa famille, il le menaçait également de son travail, de son commerce. Il disait que si tu restes dans la religion de Muhammad, nous on dit sallallahu alayhi wa sallam, je vais casser ton commerce, ton business, si on pouvait dire. Vous savez que les Arabes, Jazakallah khair. Vous savez que les Arabes, essentiellement, c'était... Non, pas les Arabes, les Mécois, essentiellement, c'était des... Non, je parle de métier. C'était des commerçants. Contrairement aux gens de Madina, les gens de Madina, c'était des... Agriculteurs. Les gens de Madina, c'était des gens de la terre. Je ne veux pas faire... Des ponts vers plein de choses. Mais c'est pour ça que quand il y a eu l'émigration vers Madina, les muhajirin. C'est quoi muhajirin?
C'est qui quitté Mecca pour aller à Madina.
Pour aller
à Madina.
Il manque un verbe.
Pour aller et s'établir là-bas.
Voilà. Là, c'est 20 sur 20. Tant qu'il n'y a pas ça, je ne donne pas 20. Les mots-clés. Je dis aux élèves, vous n'êtes pas des élèves, vous êtes des frères. Les mots-clés. Les réponses doivent comporter des mots-clés. Ce n'est pas ceux qui sont partis en voyage à Mecca, à Madina, non. Ils sont partis émigrer et vivre à Madina Munawwara. Donc, c'est une petite parenthèse. Les musulmans qui ont quitté Mecca pour aller habiter à Madina, quand ils sont arrivés à Madina, ils avaient beaucoup de difficultés pour s'intégrer sur le plan professionnel. Parce qu'ils arrivent dans une ville où tout le monde travaille la terre. Si tu dis à quelqu'un, allez, parle nour. Spécialité, c'est quoi? Non, on ne fait pas de pub, hein. C'est bourbon de pain, samoussa, katles. Bon, piment, bref, on connaît. Si je dis Nour, bon, maintenant, allez plante pied litchi. Ou allez midawakar au Khan, ce sera ça ta source de revenus. C'est bien payé, même revenu, mais il faut gérer. Compliqué. Quelqu'un qui a toujours été commerçant, on lui dit travailler la terre, c'était compliqué. Donc les gens de Madina, les muhajirins, quand ils sont arrivés à Mecca, ils avaient beaucoup de difficultés. Ils voulaient bien travailler pour être indépendants financièrement, mais ils se retrouvent avec une population qui travaille la terre. Et Madina, c'est connu pour quelle récolte? Ah, les dattes. Et comment s'appelle la meilleure date au monde?
Adjoa.
Adjoa. Combien de kilos Adjoa?
Ah là, 35 rial le kilo, 40 rial.
Alors, Nour, si tu achètes à Djoua 35 rial le kilo, c'est que tu t'es fait avoir. 35 rial, tu auras les adjoints de l'année dernière à sec. Que quand tu, enfin, bref. Un adjoint, 120 rial. Si vous mettez 120 rial, vous avez les adjoints de la saison. Elle est charnue. La pellicule ne se détache pas du noyau. Ça, c'est un bon adjoint. Allez, on ferme cette parenthèse. C'était pour vous dire que les gens de Makkah étaient essentiellement des commerçants. Imaginez que quelqu'un de puissant, la personne la plus puissante de cette ville. Quoique notre société ne s'organise pas de cette façon, hein, mais quelqu'un de très puissant, il vient, il te menace. Si vous voulez, vous continuez à aller à la mosquée, mais il fait ferme de commerce. Mais il trouve un truc, un arrêté préfectoral, je ne sais pas comment on va dire ça, pour faire fermer ton commerce, pour déclarer que ce n'est pas aux normes et tout, et je fais couler ton business, tu seras à la rue. Ce sont des menaces qui normalement touchent le cœur d'une personne, sachant que si tu n'as plus de revenus, il y a une famille, il y a des enfants. Voilà la pression que subissaient les nobles à Makkah quand ils se convertissaient à l'islam. Mais malgré cette pression psychologique, cette méchanceté, il n'y a pas eu une seule personne qui, virgule, après s'être converti complète, a quitté l'islam à cause des menaces. Non, c'était la force, la sincérité, la fermeté de leur iman. Et ça également, c'est une leçon pour nous. Quelles que soient les menaces, les méchancetés, le contexte, l'actualité, peu importe. Je me rappelle une fois, il y avait des périodes d'attentats, d'accord, mais des périodes très complexes où ça s'enchaînait. Certaines personnes avaient dit que oui, ben il faut peut-être ne plus donner azan dans le micro. On parlait de la masjid en ville. Parce que voilà, c'est plus le moment. Non, les épreuves, les difficultés ne doivent pas t'affaiblir, aucunement. Reste ferme dans ta pratique. Bien sûr, tu ne causes de tort à personne. Pas dire, au fait, azan à 4h20 du matin. Non, bien sûr que non. Tant que tu ne donnes pas ta clif à quiconque, tu respectes les droits, en aucun cas le musulman ne baisse la tête. En aucun cas le musulman ne doit rougir, ne doit avoir honte de sa religion. On a vu que le prophète avait été insulté par Abu Jahl gratuitement dans le haram, je vais dire l'esplanade, dans l'espace autour de la Kaaba. Le prophète ne s'est pas laissé faire. Il a bloqué Abu Jahl, il a répondu. Il a dit, oh Allah maudit, envoie la malédiction sur telle personne, en plus ceux qui avaient jeté les intestins et ainsi de suite, d'accord? Le croyant est patient, s'en remet à Allah, mais le croyant n'est pas celui qui se laisse opprimer, qui baisse la tête, qui subit, non. Quand on se positionne. Donc, voilà concernant les nobles. Maintenant, imaginez pour les masakin, ceux qui n'avaient pas de grande famille et qui étaient pauvres, si le nouveau converti était socialement faible, il le frappait rudement et dressait contre lui les gens. Là, c'était des atteintes physiques. Et non seulement ils le frappaient, mais ils appelaient les gens, se réunissaient pour... Bref, c'est des situations qu'on a du mal à comprendre, à concevoir, mais on doit comprendre que l'islam a commencé comme ça. L'islam a commencé avec ses difficultés. Et s'il n'y avait pas eu des gens, un noyau, des hommes autour du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les meilleurs des hommes qu'Allah a envoyés pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam, les meilleurs des compagnons, aucun prophète n'a eu de compagnon aussi fort, aussi solide, aussi sincère que le prophète alayhi salatu wa sallam avec les sahaba. Ni Isa, ni Moussa, ni Ibrahim. Ils avaient leurs compagnons, mais le niveau des compagnons de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, ça dépassait toutes les autres prophéties. Et donc, s'il n'y avait pas eu ces sahaba qui étaient restés fermes de leur pratique, nous, on ne serait pas musulmans maintenant. Par la grâce d'Allah, on est croyants par la guidée d'Allah, ensuite parce que ces gens sont restés fermes. Et c'est eux qui sont partis ensuite propager l'islam partout. Reconnaissance, admiration, et on s'inspire de leur sacrifice, de leur patience et de leur faculté à relativiser et comprendre les événements. Pas que dès qu'il t'arrive un problème, tu t'effondres et tu lâches tout, tu abandonnes tout, tu t'enfuis. Non, c'est pas ça le comportement du croyant. Et donc, ceux qui n'avaient pas une haute lignée, ben voilà, ils se faisaient vraiment frapper, agresser quotidiennement. Et là, l'auteur commence par un des cas les plus poignants, l'histoire de Moussa ibn Umair, radiallahu anhu. Tout le monde a entendu parler de Moussa ibn Umair. Un jeune noble à Mecca, un jeune homme qui portait des habits très luxueux. J'ai dit un jeune homme, un noble et riche. Une grande famille très riche. Moussa ibn Umair, radiallahu anhu, portait des vêtements luxueux. Et il est stipulé dans les récits qu'il mettait des parfums qui sentaient tellement bon que quand il passait dans une ruelle et que les gens venaient après, ils savaient que Moussa ibn Umair était passé à cet endroit. C'était un jeune homme qui vivait dans la richesse, dans les bienfaits, avec des parents qui étaient aimants. Ses parents l'aimaient beaucoup. Et c'était un jeune homme d'une grande beauté aussi. On va dire qu'Allah lui avait tout accordé, oui ou non. Mais il avait également un bon fond. Parce que quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam a commencé à prêcher, il était attentif au message du prophète sallallahu alayhi wa sallam et il a vu que c'était un message qui était juste. Qui était juste. Et donc Moussa ibn Umair, radiallahu anhu, je n'entre pas dans les détails parce que par respect pour chaque sahaba qui sera cité, on devrait y consacrer une séance. Mais après, on serait trop long. Mais voilà, ça c'est une petite invitation pour que chacun se documente et lise la biographie de ses sahabas. Quand il s'est converti, je vais un peu plus vite, sa maman, qu'il aimait tellement, je lis, sa maman le priva de nourriture et le chassa de chez elle. Quel genre de maman peut faire ça à son enfant? Il ne lui donnait plus à manger. Et il lui a dit, sors. Tu vas dormir dans la rue où tu veux, mais tu ne fais plus partie d'eux, tu n'es plus mon fils. Et Moussa ibn Umair a pris sur lui, radiallahu anhu. Il était patient, persévérant. En un instant, en quelques jours, il a tout perdu sur le plan matériel. Il a perdu les beaux habits, les parfums, la notoriété, la protection de sa tribu, la reconnaissance aux yeux des gens. Il a même perdu un peu de sa beauté. Parce qu'il est écrit que le fait qu'il n'avait plus à manger, il était dans des conditions très difficiles, je lis, qui provoqua un dessèchement de sa peau ainsi qu'une grave dégradation de son aspect physique. Imaginez quelqu'un qui dort dans la rue, qui n'a plus à manger. Il ne peut plus être frais. Donc, il a perdu tous les bienfaits qu'Allah lui avait accordés, les bienfaits matériels, mais il a gagné quelque chose. Qu'est-ce qu'il a gagné, Nour? Nourul
Islam.
Nourul Iman, Nourul Islam aussi. Il a eu la lumière de la foi. Et quand un cœur s'imbibe et goûte à la douceur de la foi, quand c'est un cœur sincère, comme c'était le cas de ces sahaba, ils ont goûté à la beauté et à la douceur de la foi, ça devient addictif. Et cette addiction, c'est l'addiction à l'adoration d'Allah. Et quand un homme comprend que l'objectif, le but de sa création, de sa vie, c'est d'adorer Allah, tout peut s'écrouler, s'effondre autour de lui, ça ne lui fait strictement rien. Vous vous rendez compte, quelqu'un qui passe de ce niveau de vie et qui devient, je ne peux pas dire qu'il dormait dans la rue, mais vous comprenez, il a tout perdu, mais malgré ça, il est resté ferme. Et ses parents lui proposaient, s'il quitte la religion de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il le reprenne chez lui. Et il lui redonne tout ce qu'il avait avant. Retourner, revenir vers tous les biens. Mais non. Ça, ce sont des exemples pour nous, mes chers frères, de fermeté dans la foi. Et qu'il n'y a rien de plus important que la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Des fois, nous, dans notre situation, avec nos quelques épreuves, on a des ambitions. Que voilà, j'aurais aimé ne plus avoir à payer un loyer pour rester dans un petit appartement serré. J'aurais aimé avoir une villa, j'aurais voulu. Il est humain, ça, de souhaiter avoir des choses. Mais voilà l'exemple de quelqu'un qui avait tout ce qu'on pouvait rêver en termes de bienfaits matériels et de bienfaits personnels, parce que Allah l'avait créé beau, en plus, d'accord? Et que la personne est prête à tout laisser parce que il y a la ilaha illallah. En fait, il pouvait plus combiner les deux, vous avez compris. C'était soit la ilaha illallah, soit le dunya. Ses parents ne l'acceptaient pas avec le tawhid. Et donc, il a choisi le tawhid. Et notre prophète, alayhi salatu wassalam, imaginez comment Nabiullah, comment il pouvait être touché intérieurement en voyant ses sahaba souffrir et que lui ne peut rien ne peut rien faire pour eux. Permettez-moi juste de vous donner comme complément d'information, peut-être que l'histoire vous connaissez. Allah a tellement ouvert le taqdir de Moussa bin Umair par rapport aux efforts qu'il a fait, qu'Allah a fait de lui. Quelqu'un veut compléter? Ah non, vous n'avez pas l'histoire. L'émissaire du prophète sallallahu alayhi wa sallam à Madina. Moussa bin Umair, les savants disent que c'est celui qui a conquis Madina par le Coran. Moussa bin Umair, après, on verra, et puis vous savez certainement, les différents serments d'allégeance, Bi'ala, Qabal, Oula, Wathania, quand les gens de Madina venaient faire le Hajj, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam les rencontrait, on verra ça, Inch'Allah, en temps voulu, et que les premières personnes de Madina qui avaient un bon cœur, un bon fond, ils ont commencé à se convertir à l'islam. Une fois, une année, une deuxième année, il y avait de plus en plus de musulmans. Ils ont dit au prophète d'Allah, on a besoin de quelqu'un qui nous enseigne la religion. Et c'est là que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a envoyé Moussa bin Umair habiter à Madina Munawwara. Et il était donc l'émissaire, le représentant du prophète sallallahu alayhi wa sallam à Madina. Et il les enseignait le Coran et l'islam. Et l'islam s'est propagé à Madina par la grâce d'Allah. Et ensuite par l'effort, la propagation de Moussa bin Umair. Il y a des récits, beaucoup de récits qui relatent comment Moussa bin Umair lisait le Coran en public à Madina, et que là-bas aussi il y avait des chefs de tribus polythéistes. Ils venaient, ils écoutaient, ils étaient perplexes, ça a été accepté, ça n'acceptait pas. Mais il a fait un travail énorme. Et quand le prophète est arrivé, il a fait enfin la hijra, il est parti habiter à Madina, il arrive dans une ville qui est complètement ouverte à sa cause. Avec les gens qui chantaient quand il est arrivé, alayhi salat wa salam, les sahaba, les gens de Madina s'empressaient de l'accueillir, proposaient au prophète d'Allah, viens chez moi, viens chez moi. Puis c'est Ayyub al-Ansari qui a eu cet honneur, on connaît à peu près l'histoire. Quand le prophète est arrivé à Madina, c'était une ville qui était déjà entièrement ouverte à la cause de l'islam par le travail de Moussa bin Umair. Un homme qui a fait des sacrifices, qui a pris sur lui, et Allah a ouvert les portes de son destin, et il est devenu un motif de hidayah pour toute une ville. Quand vous allez à Madina, qu'Allah nous y amène bientôt, quand vous allez à Madina, vous marchez dans les rues et les ruelles, enfin ruelles, il n'y en a plus trop maintenant, quand vous marchez dans les rues de Madina, n'oubliez jamais que Moussa bin Umair, il marchait là, et il propageait, il prêchait l'islam par le Coran, et il a conquis les cœurs des Ansar, des Ahlil Madina. Naam. Donc, toi, musulman, qu'est-ce que tu retiens comme leçon? Reste ferme dans ton dîn. Même si le fait d'être musulman ou alors de rester ferme dans sa pratique, ça te fait perdre quelques avantages, aie confiance en ton Seigneur. N'oublie jamais qu'Allah t'observe et que si tu as été patient, persévérant, Allah finira par t'accorder une ouverture un jour. Naam. J'ai une élève qui est venue me voir il y a quelques jours. Elle a fini un cycle d'études, BTS, je ne sais pas quoi. Et j'ai dit, le travail. Elle dit, en fait, je m'habillais de telle façon. Elle se couvrait bien, mashallah. Elle m'a dit que le fait qu'elle s'habillait de cette façon, ça lui a... on parle de métropole, hein, en métropole. Elle dit, ça m'a fermé les portes de toutes les entreprises. Mais je suis resté ferme dans mon dîn. Pour moi, la priorité, c'était d'être en conformité avec mon Seigneur Azza wa Jal. Et maintenant, il est revenu à la Réunion, elle est en train d'apprendre, elle est en train de faire des études pour devenir alima. C'est une hidayah. Allah lui a ouvert une autre porte pour qu'elle consacre sa vie à la religion, à apprendre et à enseigner la religion. Naam. Voilà combien de temps il reste. 19 minutes. Tout ce que si on démarre l'histoire d'un autre sahaba, ça prend du temps. Et je vais faire les choses correctement. On va s'arrêter à la prochaine soirée, Inch'Allah. Parce que la prochaine histoire, elle est longue, c'est Bilal. On ne peut pas parler de Bilal en 15 secondes. Je ne peux pas. C'est un manque de respect. Il y a tellement de leçons au-delà, enfin pas au-delà, avec le sacrifice pour le iman, les souffrances. Si on parle de persécution, quel est le nom qui nous revient à l'esprit? Bilal. Souffrance physique, Bilal. Coup de fouet, Bilal. Le sable chaud de Mecca, Bilal. Pierre sur la poitrine, Bilal. Et quel mot? Ahad. Ahad. Un seul Dieu. Et en plus de ces leçons de iman, de persévérance et de patience, on a un homme, Bilal était quoi? C'était un blond aux yeux bleus? Hein?
descendant d'esclaves.
Qu'il était de quelle couleur?
Noir.
Un noir. Parfois, les gens, ils pensent que quand on dit un noir, c'est raciste. C'est pas raciste de dire ça.
Un éthiopien, non?
Éthiopien. Et pour être plus précis, un autre nom. Comment ça s'appelait avant? L'Abyssinie. Ah. Oui, Habasha. Bilal ibn Rabah, esclave. Descendant d'esclaves. Un homme noir. Et vous savez, être noir chez les Arabes, c'était pas facile. Déjà, être arabe chez les Arabes, si on n'est pas d'une grande famille, c'était mort. Parce que si tu n'appartiens pas à telle tribu, aucun intérêt. N'en parlons pas de l'étranger. Et l'homme de peau noire, c'est inexistant. Ça ne compte même pas. Notre Seigneur Azza wa Jal, de sa clémence, je ferme mon livre, notre Seigneur Azza wa Jal, de sa clémence, nous a donné une leçon, nous a montré qu'un homme noir peut devenir un des meilleurs êtres humains sur cette terre. Celui qui est monté sur la Kaaba pour donner le adhan, celui qui est devenu le mu'adhin, le prophète alayhi salat wa salam, et ainsi de suite. Pour qu'on comprenne l'universalité de l'islam. L'islam, ce n'est pas la religion des Arabes. L'islam, ce n'est pas toutes les religions. C'est pas toutes les nations, les couleurs, les origines, les ethnies. En même temps, il y avait Abu Bakr al-Siddiq, un pur Qurashi, quelqu'un de Makkah. En même temps, on a Bilal ibn Rabah, qui n'avait pas de lignée avec les Arabes, mais qui était assis côte à côte auprès et autour du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et quand c'était un noble de Quraysh, voyait Bilal, dit au Muhammad, nous, on va s'asseoir à côté de lui. Ça, c'était l'orgueil, la fierté. Et ça, il n'y a pas dans l'islam. Si tu as ça de ton cœur, passe ton chemin. Et Bilal ibn Rabah, on a dit qu'on ne parle pas de lui, hein. Donc je ne parle pas de lui. On appelle ça comment? Spoiler. Je ne sais pas prononcer l'anglais. Hein. Spoiler quand on annonce un truc qui va se passer. Et Bilal ibn Rabah, comme le soin également, c'est un esclave qui a été affranchi par Abu Bakr al-Siddiq, radiallahu anhu. J'ai dit Abu Bakr al-Siddiq Qurashi. Il n'était pas Qurashi, hein, mais il était proche du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Je me suis trompé. Et donc, c'est également une leçon. Allah nous donne des signes concernant l'esclavage. Vous savez qu'à La Réunion, ça c'est quelque chose d'important avec l'histoire de l'esclavage à La Réunion, le 20 décembre, comment il donne beaucoup d'importance. C'est une des rares fêtes qui n'est pas devenue commerciale, et c'est tant mieux. Pas comme la fête des mai, la fête des PSA à Valentin, où c'est que du business. Et donc, même par rapport à la culture réunionnaise, on a quelque chose à donner, à proposer, à montrer. Une des premières choses que le professeur m'a demandé à Abou Bakr al-Siddiq, c'est « t'as les moyens ?» Affranchi Bilal, donne-lui sa liberté. Et si j'ouvre le livre, je vais continuer, je ne vais pas le faire. Le nom d'autres femmes esclaves, beaucoup moins connues pour nous, mais connues auprès d'Allah, que Abu Bakr al-Siddiq a acheté à prix d'or et a affranchi. Et nombre de versets qui parlent de l'importance de libérer, d'affranchir les esclaves, nous n'avons qu'une leçon à recevoir de l'Occident par rapport à ça. Le principe de liberté, on l'a. Les hommes sont libres. Et le prince a encouragé à libérer et à franchir les esclaves. Tellement de leçons de l'histoire de Bilal ibn Rabah et d'autres sahabas qu'on verra. Qu'Allah Rabbul Izza nous permet de nous inspirer de la vie de ses nobles compagnons. Qu'Allah nous accorde un peu de leur qualité en termes de patience, de persévérance, de confiance en Allah. Et qu'Allah nous pardonne nos manquements, nos erreurs, tout ce qui... Notre ingratitude, notre faiblesse de foi, nos faiblesses dans les moindres épreuves. Non, qu'Allah nous permet de remonter le niveau et nous permet de nous en remettre à lui entièrement. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun ala al-mursalin, wa alhamdulillahi rabbil alamin.